Oui, allô, ministère de l'Éducation nationale? Oui, bonjour, moi je suis instituteur et c'est la panique ici, on a des intégristes musulmans partout dans l'école. Mais si, sûr, ils sont barbus. Et non seulement ils sont barbus, mais ils ont des bandanas sur la tête. Et ils sont tous perchés sur des gros véhicules à moteur sur deux roues. C'est peut-être le Mollah Omar et puis ses sbires. Hein? Ah, des bikers, peut-être. Ah, ben pardon, excusez-moi alors. Voilà, Mathias, instituteur en Saône-et-Loire.
Hier, Metal Europe. Aujourd'hui, Altadis, Exocyto. La région Nord-Pas-de-Calais paie un lourd tribut à l'européanisation de nos industries. 11 ans après la seule consultation référendaire organisée en France sur l'Europe, nous ne pouvons que constater les dégâts. Malgré les discours prometteurs de nos hommes politiques sur une Europe sociale et une Europe de l'emploi, rien n'est fait aujourd'hui pour endiguer le démantèlement du tissu industriel français par l'exode de nos entreprises vers les pays à faible coût de main-d'œuvre. L'arrivée prochaine de 10 pays supplémentaires au sein de la CEE ne fera, je le crains, qu'amplifier le phénomène. Loin de proposer une alternative au libéralisme exacerbé à l'ère américaine, nos responsables politiques amnésiques de leurs promesses électoralistes de 1992 se contentent de comptabiliser les chômeurs et de les culpabiliser sur leur propre situation. Il semble plus facile aujourd'hui de légiférer sur le voile islamique que sur le licenciement de plusieurs milliers de salariés de sociétés les plus lucratives. En cette année d'élections régionales et européennes, il serait bon que les promoteurs de l'Europe en 1992, qui n'ont de cesse d'accuser la mondialisation de tous les maux de notre société, clarifient aujourd'hui leur position et mettent en œuvre une politique cohérente en rapport avec leurs engagements passés. François, salarié de Altadis Exocyto, 23 janvier 2004. Je vous remercie.
Oui, salut Daniel, et salut tout l'équipage. Oui, je me demandais là, ce matin en écoutant les infos, qui pouvait encore être dupe de ce qui se passe et de ce qu'on écoute sur les différents les différentes émissions, soi-disant d'informations. Parce que bon, en écoutant parler de façon vraiment abondante, le moins qu'on puisse dire, du dopage, on entend parler de façon abondante de cette histoire de foulard, de loi, de laïcité, de machin. C'est vraiment à se demander si certaines informations ne sont pas utilisées comme écran pour en cacher d'autres, parce que pendant ce temps-là, bon, on parle pas de licenciement, on parle pas de nucléaire, on parle pas de certaines affaires, enfin, on parle pas de plein de choses. Et puis ça me fait aussi venir à l'esprit une deuxième question, c'est parmi tous ces journalistes qui font un si beau métier, quelle est la part de ceux qui sont complètement idiots, qui se laissent manipuler, et quelle est la part de ceux qui sont, on va dire, complaisants, voire même complices?
Lorsqu'un journaliste, lorsqu'il traite d'une grève, passe plus de temps à parler des conséquences de la grève, à parler des motifs de la grève, et qu'il a choisi son camp depuis longtemps. Voilà. Salut, c'est Lionel de Bordeaux.
Bonjour Daniel, je suis origine du Népal, en ce moment tu es en Bombay. Je suis très ravi que tu fais ton émission là-bas. Et je suis origine du Népal, donc qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est au Népal en ce moment, depuis l'assassinat de roi Birendra, ça va très très mal. Les peuples, ils craquent, les maoïstes, les guerriers maoïstes... Ils vont dans les villages, les militaires, ils vont dans les villages, donc les peuples innocents, ils sont entre les maoïstes et l'armée. Donc ça serait bien que si tu fais un petit émission sur le Népal, si tu as de temps, tu peux passer là-bas. Et je te souhaite bonne année et je suis fidèle de l'émission et merci beaucoup Daniel. Il faut besoin d'un mec comme toi qui passe le massage et fidèle. Merci beaucoup, ciao.
Voilà les messages du jour sur le répondeur de la base. J'y suis, je rappelle le numéro 01 56 40 37 37. Alors ça monte là en ce moment les messages, hein. C'est une toute petite plaque sensible, modeste et géniale, évidemment, mais en ce moment il y a plus de messages, c'est plus ça se mobilise, c'est voilà, c'est bien, on est content. Aujourd'hui on continue le voyage en Inde, au fin fond de l'Inde, au fin fond de l'état du Gujarat, dans un petit village, la vie quotidienne des Dalits et des Adivasis, c'est-à-dire des tribaux, le soir, la nuit, le matin, au rythme de ce petit village. Pour répondre à une auditrice qui s'est offusquée de ce que, au cours des reportages, je dis les Blancs. Nous sommes les Blancs, les gens d'ici n'ont jamais vu des Blancs. Eh bien, c'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on nous voit, nous autres Blancs. Je suis Blanc, vous ne voyez pas là, mais je suis tout à fait Blanc. Et c'est pas du tout offensant, dans leur bouche en tout cas, et c'est pas du tout évidemment offensant dans la mienne, dans les pays du monde où nous allons, où vous allez. Eh bien, tantôt on vous traite de Muzungu, Rwanda, on vous traite de Loné en Chine, de Toubab dans d'autres coins de l'Afrique, de Pinsout quand vous êtes en Corse, et en Haïti par exemple, on vous appelle Blanc, et c'est pas du tout offensant. Parfois on est même considéré comme chrétien, même si on ne l'est pas. C'est des façons de se nommer les uns les autres, il n'y a pas de politique correct excessif à faire sur cette façon de s'exprimer les uns vis-à-vis des autres. Donc voilà le voyage aujourd'hui. Et alors on va parler de cette inquiétude quand même qu'on rapporte d'Inde, qu'on a vu à l'œuvre et qui nous a quand même beaucoup inquiété, c'est cette montée évidemment du BJP, de cette nébuleuse qui s'appelle BJP, qui s'appelle VHP, qui s'appelle ASS. C'est une chose assez rampante, assez inquiétante, cette vague safran qui gagne de proche en proche cet immense pays. Et là on va voir on va voir ça de près dans cet état du Gujarat, montée du nationalisme hindouiste dans dans la partie qu'on appelle la tribal belt, c'est-à-dire la partie des tribales de cet état. D'autres messages auparavant. 01 56 40 37 37.
Bonjour, le répondeur de la Bastille, suis Sadine de Périgueux. J'écoute souvent votre émission et je trouve qu'actuellement les messages sont polémiques et de bonne qualité. À propos des gens qui s'estiment pris en otage par la grève, il me semble que la prise d'otage est généralement effectuée par des terroristes. C'est donc assimiler les grévistes à des terroristes et ça, c'est grave. Donc que les gens fassent attention quand ils parlent. Voilà. Bonne journée, au revoir.
Alors je voulais parler des grèves. Les anarchistes du syndicalisme à la française n'ont toujours pas compris que leurs grèves, non seulement sont une atteinte à la liberté d'autrui, mais aussi une porte ouverte à la faillite des entreprises, mais aussi à la disparition petit à petit de nos avantages sociaux. À la SNCF, il n'y a plus de subvention pour les jeunes qui désirent faire un stage en vue d'être cadre. Et puis, il faut reconnaître que c'est de l'abus de pouvoir que de prendre en otage femmes enceintes, personnes âgées, enfants, d'autant plus que les fonctionnaires sont payés avec l'argent du peuple. Dès qu'un transport urbain est agressé, c'est la grève qui est pénalisée, surtout par les agresseurs, ces véroles qui vivent au crochet de la société. Par contre, les usagers honnêtes, eux, une fois de plus, sont persécutés. Refuser de desservir les zones à risque, voilà une réaction intelligente. Mais c'est trop demandé aux vicieux du syndicalisme. Merci, Maïté Dugard.
Juste avant l'émission du mercredi 21 janvier, j'ai entendu les infos de 17h. Principal sujet, la grève à la SNCF et bien sûr le service minimum en cas de grève. Et évidemment, que des usagers qui maudissent les syndicalistes qui n'ont aucun scrupule à empêcher les gens à aller travailler. Je suis déjà de mauvais poil ces temps-ci. Mais cette séquence de désinformation, oserais-je dire propagande du gouvernement et du MEDEF, n'a fait qu'augmenter ma colère. Le service minimum, je connais. Je suis infirmière. Nous sommes soumis au service minimum dans les hôpitaux publics en cas de grève, pour assurer la continuité des soins. Le corps médical ne nous facilite pas toujours la chose, en refusant d'annuler des entrées programmées, puisqu'un jour de grève, nous ne devrions assurer que les urgences. Et contrairement aux cliniques privées, nous ne pouvons refuser les malades. En fait, notre grève ne gêne que nous-mêmes, le gréviste parce qu'il perd une journée de salaire, le gréviste réquisitionné parce qu'il a autant, voire plus de travail que les autres jours, les équipes étant réduites. Conclusion, même si nous nous battons pour améliorer nos conditions de travail pour pouvoir assurer des soins dignes de ce nom aux personnes hospitalisées. Même si nous nous battons pour proposer un autre système de santé que le secteur marchand tel qu'on veut nous l'imposer depuis des années, les réformes voulues par les gouvernements passent toujours, puisque le service minimum, en cas de grève, ne gêne pas grand monde. Tout au plus avons-nous droit à une crise de compassion des médias, des politiques démagogues et de l'opinion publique versatile. Mais quand dans quelques années, quand les clients malades seront mécontents des soins pratiqués en fonction des assurances qu'ils pourront ou pas se payer, qu'ils se souviennent que ce n'est pas faute de les avoir prévenus, que si les gens ordinaires se projettent à court terme, nos dirigeants, eux, travaillent sur le long terme, et rarement dans l'intérêt de la France d'envoi. À bon entendeur, salut.
Oui, bonjour. Juste une petite phrase qui me trotte dans la tête en écoutant votre émission sur les castes. Très très intéressante et merci beaucoup. Et voilà, c'est Joseph Lacanal qui disait « Celui qui sait penser ne saurait être esclave ». Et bon, en plus, cette petite phrase apparaît aujourd'hui à l'entête de notre petit journal gratuit régional, le 09. Et je trouve qu'elle est forte à propos. Voilà, à bientôt.
The RSS, the ideological body of this fascist politics.
Le RSS qui porte l'idéologie de ce parti fasciste hindouiste.
Was constructed with a very strong brahmanical ideology and base.
Et construit et basé sur une très forte idéologie brahmane.
However, in 64-65, they set up the Vishwa Hindu Parishad.
Mais en 64-65, ils ont créé une nouvelle entité, le VHP.
To unite all Hindus.
Qui a pour but déterminé, justement, cette fois-ci, de pouvoir unir tous les hindous.
And the mandate given to the VHP is you work in the tribal areas and among Dalits and internationally.
Et leur mandat était vraiment clairement défini. Vous travaillez dans les zones tribales, sur les Dalits, c'est-à-dire sur les intouchables, et à l'international.
Namasté, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil. Là-bas, si j'y suis, les oubliés du miracle. Alors là, il y a une chèvre noire qui est en train d'essayer de boucher le fil de mon micro. Mais elle n'a jamais entendu parler une langue pareille. Elle est intéressée. Hein. Elle n'a jamais entendu parler une langue pareille. Alors là, on est vraiment l'attraction ce soir dans ce village. Tout le village. Ils n'ont jamais vu un blanc à part à la télé. Et ils ont la télé, ils rigolent parce que je rigole.
Qui sont les gens qui sont là?
Adivasi.
Ce sont des tribaux.
Des tribaux? C'est quoi des tribaux?
On va savoir. Tribal. Jungle.
Ceux qui habitent dans les forêts.
Comment s'appelle le village où on est?
Saring.
Le village s'appelle Saring.
Et à Saring, il y a des Dalits et des tribaux qui vivent ensemble.
Oui. Depuis des années, ils se sont installés maintenant dans le village.
Et ils ont quitté leur forêt.
Oh. Oui.
Hey, la chèvre est en train de bouffer mon fil.
Nous, on va parler d'eux. On va parler des habitants de ce village, de ce petit village de Saring, dans le district de Karjan, pas loin de Baroda, au Gujarat. On va parler d'eux. On va parler avec eux. Mais en ce moment, je peux vous dire que dans le village, ils parlent de nous. Il parle de nous, de ces deux blancs, parce qu'on nous appelle comme ça, Guy et moi, qui avons passé deux jours dans ce village. On est, ils sont pas prêts de nous oublier. Il y a pas la télé. Et alors, on va nourrir le feuilleton de ce petit village pendant des années, je suis sûr. Peut-être qu'on va devenir des divinités. C'est possible. Vous savez, il y a 33 millions de divinités en Inde. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Avec toute l'humour, l'ironie pas méchante du tout des habitants de ce village, on va passer avec vous aussi cette heure. On va passer cette heure dans la famille Rajindra, des gens absolument charmants qui nous ont reçus, qui nous ont nourris, qui nous ont chez qui on a dormi. Et je veux citer leurs noms. Je vais d'abord citer le nom des femmes, la maman Chantaben, les femmes Lata Ben, Manjula, Praina, Nirun, un petit garçon qui s'appelle Ruchita, et puis les cinq frères de la maison, Parma, Mahindra, Raji, Kant, Hemant, Ashok. Voilà, je veux surtout pas les oublier. Et qui nous a amenés là? Eh bien, c'est nos trois amis de l'association Nafsarjan. Nafsarjan, c'est une association, je le dis, mais je le redis encore, il y a en Inde, je ne sais pas s'il faut parler de société civile, mais en tout cas, il y a beaucoup d'associations, de mouvements, de partis, qui luttent, qui se battent sur un tas de fronts et pour un tas de causes différentes, mais tous avec la même ardeur. Et donc Nafsarjan, c'est une association qui est une ONG qui est basée à côté d'Ahmedabad, à Sananda. C'est Martin McGowan qui en est l'animateur, et qui ont pour but les droits des Dalits, et aussi des adivasis, c'est-à-dire des tribaux qu'on va découvrir aujourd'hui. Et ils militent pour conscientiser, oui, pourquoi pas employer des mots qui semblent un peu fanés, mais qui ont tout leur sens dans un pays comme celui-là, pour conscientiser les Dalits à leurs droits. Et en appliquant exactement ce que disait l'auditrice tout à l'heure, celui qui sait penser ne saurait être esclave. Alors nos trois guides militants, activistes comme ils disent, c'est Murji Magwana, Jagdish Vankar et Vinu Rohit. Nous voilà dans ce village pour cette soirée, ces rencontres. On est assez ravis d'avoir quitté Ahmedabad, la pollution, le bazar, le boucan, la tension. Nous voilà dans ce village paisible ce soir-là.
Divo
Alors ça c'est la maison?
Ah, mon gosse.
Oui, c'est ma maison. Uh-huh.
Elle est en choukan gosse, mon gosse, Alex.
C'est la maison de mes enfants. Ouais. Moi j'ai une autre maison.
Le papa, la maman.
Ma maman mène à choukran, moi.
Il y a d'autres enfants qui sont à l'extérieur.
Ah, d'accord. Mais c'est une grande famille, alors.
Oh. Oh. Chela chabilo ranga dalanyo ranga kesariyo jume chelo mio chela chabilo he mara janjar kade jan kad jau jar barwa ho hu to patan sel ni nar jau jar barwa mare haye har kana ai jau jar barwa
Bravo. Comment tu t'appelles?
Minakshi.
Minakshi.
Sol Mouyato.
J'ai 16 ans.
Dis donc, tu chantes drôlement bien. Hein. Qui est-ce qui t'a appris ça?
Kulma.
À l'école.
Où est-ce que tu vas à l'école?
J'allais à l'école, maintenant je n'y vais plus.
16 ans, oui, c'est grand. Toi, tu es quoi? Tu es...
Dalit.
Mmh. Dalit.
Dalit. Alors, est-ce que tu allais avec des adivasis?
Oh. Ouais.
Et avec des castes supérieures?
Ouais.
Avec des brahmanes, avec des...
Oui, tout le monde ensemble.
Tout le monde ensemble à l'école. Pas de différence à l'école.
Non.
Et maintenant, qu'est-ce que tu fais?
Je vais dans les champs.
Tu vas dans les champs depuis combien de temps?
Depuis 2-3 mois.
Et les autres enfants, là? Toi, tu as quel âge?
13 ans. 16 ans.
Et toi?
12 ans.
12 ans. Tu vas dans les champs?
Ouais.
À combien tu es payé?
25 roupies. Tout le monde est payé 25.
25 roupies, c'est 3 francs. Même pas un demi-euro, quoi. Et qu'est-ce que tu fais dans les champs?
La colle de coton.
Tout le monde travaille dans le coton, là. Hein? Tout le monde ramasse le coton.
Ouais.
Et vous, vous allez dans les champs?
Ouais.
Combien de roupies par jour?
35 roupies.
Un homme dans la force de l'âge, c'est 35 roupies. Et les enfants, c'est 25 roupies à partir de 12 ans. Les plus jeunes qui vont dans les champs, c'est quel âge?
10 ans.
Donc ils ne vont pas à l'école pendant ce temps-là?
Non.
Est-ce que vous avez du travail toute l'année, les hommes, là, avec le coton?
On travaille seulement 6 mois.
Et puis les autres 6 mois?
S'il
y a du travail, on le fait, sinon on est à la maison toute la journée.
Et vous n'avez que le coton?
Oui, c'est tout. Et puis la canne à sucre.
La canne ou le coton?
Pour la canne à sucre, des gens viennent de l'extérieur, donc eux, ils sont au chômage.
Ah, ça vous prend du travail?
Ah, banna des sugar khan, khan sari ne bara, guar ne bara sugar banan, le taiti mazure logo mukle. La mazure ne seri berin ka tinga sun ne.
Ils viennent de Goa, de Maharashtra.
Khan,
seri tan par ka pas.
Ils sont payés mieux.
Ils sont mieux payés que vous?
Paisa amne tan upar male.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez comme moyen pour vous défendre?
On n'a pas de moyens.
Mais est-ce que vous avez des terres vous-même?
Non. Nos mains et nos jambes sont notre terre.
Alors, ceux qui vous emploient, c'est qui?
Brahmanes et Patels.
Des Brahmanes et des Patels.
Les Brahmanes et des Patels. Ils sont où les Brahmanes et Patels?
Ici, dans le village. Sur l'autre côté du village.
Et vous entendez bien avec eux?
Comme nous travaillons pour eux, nous avons de bonnes relations avec eux.
Comme on peut, quoi. Et le matin, vous partez au travail, à quelle heure?
À 8h.
Ah oui, on ira les voir dans les champs.
Du coton transgénique.
Du coton transgénique. Voilà, tout est dit assez rapidement en quelques mots, avec le sourire. Hein. Les gens sont très hospitaliers dans ce village. Et voilà les conditions rapidement évoquées, les conditions de travail. Donc là, on est avec des Dalits, les intouchables. Je rappelle qu'ils sont autour de 200 millions en Inde, 1,5 milliard d'habitants. Et puis donc les tribaux, ce qu'on appelle les tribaux, et qui sont environ 80 millions. Donc au total, ça fait quand même une population, si on additionne les hors-castes, ça fait 280 millions de personnes, ce qui n'est quand même pas rien. Ça constitue une force politique, mais en tous les cas, une force de travail d'abord. Et comme partout, et comme toujours, lorsqu'on a des employés, entre guillemets, et qui commencent à s'incruster, on va chercher plus loin de la main-d'œuvre, et donc auprès de ces tribaux qu'on va chercher un peu plus loin. Et puis après, quand ces tribaux-là commencent à s'installer et à exiger un petit peu, hop, on va chercher encore plus loin des tribaux qui deviennent des sortes d'immigrés de l'intérieur, des migrants de l'intérieur qu'on appelle parfois des nomades ou des semi-nomades qui travaillent évidemment pour moins, et on organise de cette façon, vieille méthode du dominant, la guerre des pauvres entre eux. C'est une vieille coutume, disons. Voilà, on est dans ce village. Nous sommes un peu le clou de la soirée, mais c'est très bienveillant, c'est très gentil. Les gens sont très très contents de nous voir, et nous aussi, pour tout dire. C'est quand même merveilleux, la radio. On est arrivé dans le village il y a une heure. C'est nuit. On a dîné, on nous a invités à dîner. On a parlé un peu avec les habitants. Et puis on a demandé si quelqu'un faisait de la musique. Et puis 10 minutes après, comme par miracle, il y a ces trois garçons qui sont arrivés avec des tambours et qui sont en train de jouer. Alors il fait nuit. Juste la scène juste éclairée par des lampes de poche ou par des lampes à pétrole. Et il y a les gamins du village qui sont en train de danser par petites farandoles de 3-4 gosses comme ça, qui tournent autour des trois garçons avec leur tambour. Et puis tous les villageois qui sont autour, et les gamins sont magnifiques. C'est une danse comme ça qui va, qui vient, de gauche, de droite. Et on tombe en rythme, c'est magnifique. Il y a des mômes là, j'en vois, qui ont 9 ans, 10 ans. Demain matin, ils iront travailler dans les champs de coton pour 25 roupies par jour, c'est-à-dire à peu près 3 francs par jour, pour 8 heures, 9 heures, 10 heures de boulot. Il y a les parents, les pères, les mères qui vont travailler aussi demain. Voilà, là ça s'accélère. Alors la poussière monte et les gens sont ravis. C'est des gens très très hospitaliers, très sympas. Il y a tout le village qui est là, sous les arbres, sous la voûte. On voit les étoiles, on voit pas chez nous, j'ai l'impression, au-dessus de nous. C'est des nuits magiques comme ça, des nuits aimantées. En quelques instants, on a eu cette danse qui s'est pas improvisée, mais qui s'est organisée très très beau. Ces groupes qui tournent autour des musiciens, des tambourinaires, on va dire. Et alors, les gens du village, les Dalits sont très contents de nous faire le tour, non pas des propriétaires. Alors là, s'il y a des gens qui sont pas propriétaires, c'est bien mieux. Mais enfin, de nous faire le tour du village. Dans cette nuit calme, dans cette nuit avec des odeurs des tables, de mangeailles qui sort des modestes chaumières, on va dire, on nous emmène dans une partie un peu plus construite du village, et on comprend que là on est chez les brahmanes ou patels, c'est caste supérieure, et on comprend qu'on a absolument tenu à nous faire passer par là, et on va comprendre peu à peu que nous faire passer par là, c'est montrer que voilà, les blancs, les européens, les français, personne ne se soucie de savoir si on est français, américain, mais enfin bon, on est des visiteurs en tous les cas importants. C'est important de montrer que des gens importants viennent voir des gens aussi modestes que des Dalits ou des tribaux. Alors on nous fait ostensiblement circuler dans ces quartiers, dans les ruelles de terre, entre ces maisons qui sont en pierre, avec de la lumière électrique. c'est tout dit. Et puis on avance comme ça jusqu'on revient dans le quartier des intouchables ou au coin d'un sur une place comme ça faiblement éclairée avec des lampes à pétrole et toute une petite foule où on nous a préparé une fête, un spectacle. Alors c'est la place du village. Tout ça c'est pour nous. Toute cette musique c'est pour nous. Ce soir dans ce village des Dalits. Les gens nous font un petit concert, ils font une petite fête. Alors c'est le carrefour du village, la petite place, évidemment en terre battue. Au milieu on a tendu une toile et les musiciens se sont assis avec tambour, harmonium, et il y a un chanteur, il y a un orgue, et alors bon, quelques fils qui se baladent, et puis ça aboutit à une sono en forme de. C'est haut-parleur en forme de haut-parleur de gare comme autrefois. Et alors autour du petit orchestre accroupi, il y a tous les gars du village qui sont là et qui dansent vachement bien en rythme. Chacun tient une sorte de tambourin, de rythmique à la main. Et autour, ben, y a les villageois. Là, je suis du côté des femmes qui observent ça. Alors, des femmes de tous les âges, dans leur sari multicolore, des jeunes femmes très très jolies, et puis des dames plus âgées, des fillettes. De l'autre côté, c'est plutôt les hommes devant cette maison qui regardent, des vieux, tous les âges aussi. Et puis il y a des buffles. Alors, il y a deux gros buffles noirs splendides qui s'en foutent totalement. Un peu plus loin, il y a des gens qui arrivent, qui regardent. Une petite famille, un petit groupe, un énorme chariot. Puis des maisons, un éclairage ici, un éclairage là, qui éclaire une porte, un volet de bois, et ça s'en va comme ça. Et puis on revient, voilà, sur ces maisons peintes en bleu, avec ces auvents de paille et de bois, sur la place du village. Et derrière les danseurs et l'orchestre, il y a un temple noir et blanc, avec une petite loupiote, je ne sais pas à qui ce temple est dédié. Et puis, aux quatre coins du temple, une croix gammée. Et oui, des croix gammées, parce qu'on est en Inde, c'est évidemment absolument pas le même sens. La svastika n'a absolument pas le même sens ici que chez nous. C'est un signe de bienvenue. Et donc, voilà, ce soir, en l'honneur de la basse, si j'y suis, absolument, c'est pour nous. Tout ça, c'est pour nous. Maintenant, ça a changé. La danse est devenue une pantomime. C'est un combat entre deux garçons. Il y en a un qui joue d'un instrument, qui fait semblant de souffler dans un instrument, un autre qui rampe par terre. Qu'est-ce que ça raconte, ça?
Ah, Nagin discute. Nagin, est la guerre en sap, hein?
C'est une danse qui s'appelle Nagin. Et l'homme qui est par terre, c'est un serpent.
Ah, voilà. Bien qu'il essaie de charmer le serpent. C'est super, ce mouvement.
पकड़ी ने एक दिन गई थी हूँ जमुना लेते जमुना लानी रमा डूब के मारी ने मने परशी गई मने परशी गई तेजनी लगी वासड़ी नी आंगली
Ah bah il y a un chariot qui passe, un chariot immense qui passe avec tiré par un buffle. Il est 8h du matin et le village s'éveille. Je pense que les hommes sont déjà partis travailler dans les champs de coton, dans les champs de canne à sucre. Et là, qu'est-ce que je vois de gauche à droite si je regarde le chemin du village? D'abord, tout le monde nous regarde parce que on est l'événement, on est l'attraction. La plupart n'ont jamais vu de blanc en vrai. Mais c'est très souriant, c'est très avenant. Là, je reconnais ceux qui ont fait de la musique hier soir, qui les ont fait de la musique, qui jouent des tablas, celui-là, ce monsieur-là. Alors, dans le chemin du village, un chemin de terre, évidemment, il y a des buffles qui se baladent tranquillement. Là, il y a une dame qui est en train de balayer avec un balai de riz, qui est en train de balayer les rues du village. Alors, je sais pas si elle appartient à la caste de ceux qui ramassent les excréments, c'est possible. Il y a des chèvres un peu partout, devant chaque petite maison, il y a deux ou trois chèvres, chèvres noires, chèvres blanches, mais uniquement pour le lait, parce qu'évidemment ici on mange pas les animaux, on mange que des légumes, alors c'est évidemment très pauvre. Des maisons qui s'effondrent un petit peu, avec des toitures qui s'effondrent complètement, soit en tuiles esquintées, délabrées, soit en tôle. Et les gens sortent des maisons, là il y a des dames plus âgées enroulées dans un sari très très beau. Et puis le soleil monte un petit peu. Il y a des merles là-haut sur les poteaux, sur l'autre. Là-bas, de temps en temps, il y a des gros singes qui passent. Il paraît qu'ils sont assez méchants et qui mordent. Et puis, là en face, et ben voilà, c'est la dame qui fait la cuisine, qui est accroupie, qui fait sa cuisine sur un feu de bois. Ça sent très bon d'ailleurs, c'est délicieux. Il y a des gosses qui me regardent là-bas, dans l'autre maison, à travers les branches. Ils sont très étonnés de voir ça. Et puis, là, je continue, un vélo, un de ces vieux vélos anglais qui doit dater du temps des Anglais. Il y a des dames qui me regardent, très très jolies dames. Il y en a une qui fait sa toilette, qui rince ses nattes. Alors tout est très, on va dire, spartiate, ascétique, parcimonieux. La dame est sortie donner manger à sa chèvre, mais juste un petit reste d'une crêpe salée. Là, il y a un gros coq blanc, c'est celui peut-être qui nous a réveillés tout à l'heure. Il y a un gosse qui joue avec un cerf-volant là-bas. Ça, c'est la passion des enfants ici, c'est le cerf-volant. Et puis le village s'en va comme ça, avec des haies faites de roseaux séchés. Et puis là-bas, tout au bout du chemin, il y a une maison en dur, construite, quoi, en pierre. Alors ça, c'est peut-être bien la maison des riches, la maison des brahmanes, une des maisons des brahmanes, parce que le village des brahmanes est de l'autre côté. On l'aperçoit là-bas, par-dessus les maisons basses où nous sommes. Ici, on est un peu à l'écart, quoi. On est un peu dans la banlieue, pour tout dire. Voilà, le jour se lève. Quoi, des moments agréables des reportages d'abord, de ces découvertes et de la vie de dans ce village. Alors là, on est sur le seuil de la maison où nous sommes reçus et il y a la grand-mère Chantaben, c'est son nom, qui fait les dévotions, qui est au seuil de chaque porte à l'intérieur de la maison, à gauche et à droite du seuil de chaque porte, avec une pâte rouge, trace très rituellement des croix gammées. Oui, la swastika, je le disais tout à l'heure, vous le savez, en Inde, ça n'a absolument pas la même signification que pour nous. Et voilà, le matin se lève de cette façon. Évidemment, l'image est assez troublante. Et à l'intérieur de la maison, la maîtresse de maison est en train de passer son bâton d'encens partout. Maintenant, elle touche chaque seuil de porte, de l'intérieur à l'extérieur, des pièces entre elles. Devant, là, c'est une peinture sur le mur qui représente Ganesh, à tête d'éléphant. Là, il y a une autre représentation d'une divinité. Et donc, partout, avec son bâton d'encens, elle est passée, elle a agité l'encens. Une petite dévotion avec les mains jointes, d'une manière tout à fait discrète, parce que tout le monde ne va qu'à ses activités. Puis là-bas, dans ce coin d'une pièce que je vois là, il y a un autel, des bâtons d'encens, une sorte de lampe à huile, et puis des objets divers que je ne sais pas identifier.
Voilà, le marchand de poissons. Voilà, sur sa mobilette, lui, il a des poissons de la rivière et puis ça balance, là. Il y a des beaux poissons. Combien ça coûte le kilo?
40 euros.
40 roupies. Une journée et demie de salaire pour un kilo de poisson. Voilà, il range la balance et puis il continue sa route. Voilà, le village se lève, on traverse le village et on va vers le temple. On va vers le temple, il faut le répéter, les Dalits et encore moins les tribaux n'ont accès au temple. Le temple, c'est l'affaire des castes supérieures, c'est l'affaire en l'occurrence des brahmines et des patels de ce petit village. Et alors le temple est construit à côté du château d'eau. C'est pas rien. Hein, détenir l'eau, être propriétaire de l'eau, c'est avoir le pouvoir. Et le temple, eh bien, c'est le symbole du pouvoir. Visite. C'est le temple des Brahmines. Là, c'est difficile à piger les figures qui sont là. Il y a deux divinités qui sont représentées dans ce petit hôtel, plus au premier plan, un tigre avec des ornements chatoyants et puis quelques fleurs rouges avec des pétales. Ça restera mystérieux, mais c'est pas mal que ça reste mystérieux aussi.
Kandilya. La déesse Kandilya et
Kandilya,
la déesse Gautam.
Kandilya et Gautam. Et le tigre devant?
C'est le véhicule de la déesse.
Ah, c'est avec ça qu'elle s'en va et qu'elle arrive.
Ouais, par exemple, Ganpati, il a une souris. Krishna, il a un chariot.
Vishnu?
Un oiseau.
Là, ces gens-là sont des brahmanes?
Ouais.
Vous êtes de quel genre de brahman?
Jamu brahman.
Jamu. C'est une caste supérieure.
Et toi, ta caste, c'est quoi?
Moi, je suis Nagar.
Nagar. Alors c'est en haut, Nagar?
Tout en haut.
Toi, t'es tout en haut, et eux, ils sont un peu en dessous.
Ouais.
Alors, ils te doivent le respect. Est-ce que vous seriez d'accord, par exemple, que Preet, mettons, on est ici, elle rencontre ce beau garçon avec sa belle barbe, elle le trouve comme au cinéma, hein, parce que c'est une fille sentimentale. Alors, elle dit, oh. Alors, est-ce qu'elle pourrait l'épouser? Elle pourrait?
Oui.
Elle peut épouser n'importe qui.
Ouais. Un brahmin.
Ah, mais lui, c'est pas un brahmin?
Si.
Ah, mais lui, par exemple. Est-ce qu'elle peut épouser celui-là?
Non, c'est pas possible.
Ah, oui. Vous avez une femme, vous êtes marié? Comment vous avez rencontré votre femme?
On est allé chez elle.
Qui l'avait choisi?
Ma maman.
Mon oncle.
Ah, mais c'est pas vous qui l'avez choisi?
Non, c'est l'agne de
quoi? Non.
Et vous auriez pas pu épouser une fille d'Alit?
Non.
Non.
Non, ça c'est pas possible. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des mariages d'amour?
Non.
Non.
Non. Non, ça n'existe pas.
Dans ce village. Dans les grandes villes, c'est possible.
Mais est-ce que vous êtes contre le système des castes, vous?
Oui.
Non.
Non.
Ils sont pour ou contre?
Il doit y avoir le système de castes, mais pourtant tout le monde doit habiter ensemble.
Il faut des castes et que tout le monde habite ensemble.
Ah.
Et pourquoi il faut des castes?
Pour avoir des différences.
Mais est-ce que vous pensez qu'il faut reconstruire le temple d'Ayodhya?
Je suis président de VHP.
Ah, vous êtes le président du VHP ici?
Oui.
Ah, d'accord.
Il y a une autre personne avec moi qui travaille pour le Bajrang Dal.
Le Bajrang Dal, c'est quoi?
Pour le mouvement d'Ayodhya, il y a de différentes divisions. Une division s'appelle VHP, l'autre s'appelle Bajrang Dal.
Et Bajrang Dal, ça consiste en quoi?
Ils ont un entraînement physique très spécial. S'il faut faire une attaque, oh, ils peuvent faire.
Mais ils ont des armes?
Ah ouais.
Ouais.
Quel genre d'armes?
Le talwar, ouais.
Des épées.
Alors voilà, voilà, nous sommes avec avec un représentant du VHP, un des éléments de la famille des partis et des mouvements hindouistes qui actuellement domine même dans cette région, avec qui nous parle du Bajrang Dal. Et le Bajrang Dal, c'est des organisations souvent de jeunesse, mais pas seulement, qui à travers tout le pays organise des milices avec des entraînements matinaux très tôt, armés, et qui ont été impliqués dans les massacres d'Ahmedabad d'il y a 2 ans, ces pogroms dont nous avons parlé, qui ont fait 2000 morts il y a 2 ans. Voilà, ce sont ces milices qui, à travers tout le pays, constituent comme ça une sorte de filet tout à fait inquiétant, tout à fait préoccupant.
Nous devons reconstruire le temple. Il faut être prêt pour aller à Ayodhya et pour lutter.
Il faut aller à Ayodhya. Et il faut lutter contre les musulmans. Il faut lutter.
Ah.
Ouais.
Tu connais des gens qui ont été dans les émeutes il y a 2 ans à Ahmedabad?
Non.
Si on t'avait demandé d'y aller, tu y serais allé?
Oui, il y a une bande qui doit y aller.
Il fallait y aller, mais il y a eu 2000 morts.
Pour le temple d'Ayodhya, on peut tout faire.
Ah, vous êtes prêt à tout pour le temple d'Ayodhya? Prêt à mourir et vous êtes prêt à tuer?
Oui, tout à fait. Ils sont fiers d'être hindous.
Vous êtes fiers d'être hindous?
Toute la région de Karjan, c'est BJP.
Ici, c'est BJP.
Oh.
Pour les vrais hindous. Mm.
Ouais.
Mais est-ce que les Dalits sont des hindous?
Oui, bien sûr. Ils sont des hindous. Tout le monde est hindou.
Et les tribaux aussi, c'est des hindous.
Bien sûr.
Combien sont payés les Dalits?
12 000 roupies par an.
12 000 roupies par an, ça fait combien par jour?
50 roupies, à peu près.
50? Chez vous aussi, 50? Mmh. Et les enfants travaillent à partir de quel âge chez vous?
À partir de
10 ans, il y a des enfants qui travaillent pour vous. Vous les payez combien, les enfants, à partir de 10 ans?
Ça dépend du travail.
Deux
roupies par kilo.
Ils peuvent se faire combien dans une journée, les enfants?
30 à 35
roupies. 30 à 35 roupies. Il faut qu'il travaille beaucoup alors.
8 heures par jour.
Voilà, le système des castes est un système d'exploitation terrifiant, c'est tout. C'est tout vulgairement ça. C'est pas la peine d'aller chercher la culture, le fascinant, le passionnant, les divinités. C'est simplement ça, brutalement. Et comme ça risque d'être menacé, peut-être, eh bien, on se défend d'une manière très brutale, très organisée. Voilà, une rencontre avec des jeunes militants du Bajrang Dal. Voilà, le système des castes est un système d'exploitation terrifiant, c'est tout. C'est tout vulgairement ça, c'est pas la peine d'aller chercher la culture, le fascinant, le passionnant, les divinités. C'est simplement ça, brutalement. Et comme ça risque d'être menacé, peut-être, eh bien, on se défend d'une manière très brutale, très organisée. Voilà, une rencontre avec des jeunes militants du Bajrang Dal. Très inquiétant. très inquiétant ce qu'on entend là, ce à quoi on assiste, la suite de ce parti assez monstrueux qui a été créé en 1925 et qui est un parti qui se sent proche du fascisme italien, qui reconnaît Hitler comme un personnage tout à fait intéressant et qui gagne bel et bien actuellement dans cet énorme pays qui est en train de devenir une très grande puissance. Inquiétude, mais heureusement, c'est peu de choses peut-être, mais il y a des résistances, il y a des contre-feux. Conclusion provisoire, début de conclusion provisoire avec nos amis.
Est-ce que toi tu es inquiet par tous ces gens qui sont au VHP?
Est-ce que nous sommes en minorité?
Le vaston je que aku ja hindu rashtra je loko am tame juo to moti je gae ghani badi je gae ulake loke hindu rashtra amuk gam tamaru swagat kare
barabar etle cette idée de nation hindou
એટલે એનાથી હું છે આખું કે માનો કે અત્યારે મેજોરિટી કોની છે તો મુસ્લિમોનું એટલું બધું વર્ચસ્વ થઈ ગયું કે એટલે હામો સમોવડિયા થાય એટલે એમનો જો ખાતમો થાય તો એ પછી
એટલે
એ તૂટી જાય ત્યાર પછી જો કોણ ઉભું થઈ શકે એવું છે તો આદિવાસીના દલિતોનું જૂથ
ભેગું થાય છે ડાબોર ઇલ ફો અટેકે લે મુસલમાન પાસ કે ઓ ઇલ્સ ઓન ડુ પુવાર મેટનો આફ્ટર લે મુસલમાન દે ટ્રિબો એ દે દલિત પુર રેન્ડર ટુટ લા નેશન હિન્દુ
હિન્દુ સેસા. Mais ils sont très décidés, ils sont armés pour la reconstruction du temple d'Ayodhya.
Le temple, c'est un prétexte.
મેન કે જે બ્રાહ્મણવાદ છે આખું જે હિન્દુવાદ છે આખું જે આખું આજે જેની મેજોરિટી નહીં જેની પાસે
લે હિન્દુત્વ સે ટુ મનાસ પુર લે મિનોરિટે
લે એન મેમ ટેમ ઇઝ આરિવ અ સેડ્યુઅર દે દલિત ઇઝ આરિવ અ સેડ્યુઅર દે આદિવાસી એ લે ફેર રેન્ટ્રે ડાન લે વીએચપી
વાય.
Vous, vous représentez quoi pour eux? Est-ce que vous représentez un danger? Est-ce que vous représentez un adversaire?
Voilà, on les retrouvera dans l'émission de lundi parce que ça vaut le coup de leur donner la parole. Ils sont le contre-feu à ce risque que court actuellement cet énorme pays. Merci à tous. Montage Yann Chouquet, traduction Prit Pandilla, reportage Guy Vanquille, technique aujourd'hui Clotilde Thomas et Olivier Leroux, répondeur Christophe Imbert, musique Oyen Guyenne, c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Le répondeur de là-bas, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve lundi à 17h. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Salut.